Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Des syndicats contre des syndicats, des manifestants qui s'introduisent dans le hall du siège de la CFDT. Laurent Berger dénonce une intrusion violente, il va porter plainte.
Le front syndical qui se fissure et les actions coup de poing des plus durs. Le musée du Louvre a aussi été bloqué.
L'émotion à Lyon, hommage solennel aux policiers tués, renversés par un fourgon le week-end dernier. Nous serons sur place.
À la fin du procès du père Prénat, le jugement sera rendu en mars. Le procureur a requis au moins 8 ans de prison.
Et puis le choc dans le fief de Paul Bocuse, la troisième étoile au Michelin s'est envolé.
Pour nous, c'est notre Saint-Père hein, dans la restauration. Effectivement, ils auraient mérité de la garder puisqu'il reste dans les traces de Monsieur Paul.
Dans ce journal également, les agences immobilières qui veulent ficher les locataires mauvais payeurs. Le gouvernement n'a pas l'air d'aimer l'idée.
Et les pompiers français de retour d'Australie.
On a été impressionnés très clairement par ces feux qui touchent pratiquement 20 millions d'hectares. Ça représente un quart de la France.
Et puis les règles, rien que les règles, la rigidité des autorités du foot en question. Un club sanctionné par exemple pour avoir mis des bonnets de Père Noël à des enfants. La Bourse de Paris, ce soir, finit la semaine en nette hausse, plus 1,02%, 6100 points pour le CAC 40.
Bonsoir Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Quelle couleur le ciel ce week-end ?
Alors le ciel, il sera plutôt jaune ce week-end. C'est une vraie journée d'hiver, un temps qui redevient sec, des températures en chute libre et des chutes de neige en montagne. Je vous donne tout le détail à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On est là ! On est là !
Il n'était qu'une trentaine, tout au plus, mais cette intrusion à la mi-journée au siège parisien de la CFDT allume la mèche et affiche au grand jour l'éclatement du front syndical entre réformistes d'un côté et syndicats les plus durs de l'autre. Action menée par des cheminots et des agents de la RATP. Le patron de la CFDT dénonce une intrusion violente. Il va porter plainte. Écoutez le témoignage de ce militant de la CFDT.
C'était quand même assez très rassurant, oui. J'ai pensé que j'allais me prendre quelques points sur la figure, ça peut être le cas. Bon, ça a été mis dans la bousculade, c'était un peu assez effrayant, quoi. C'est intolérable. On peut pas, dans une démocratie, on respecte les individus. Ces gens-là sont pas des démocrates.
Bonsoir Emmanuel Duteil.
Bonsoir.
C'est l'image du jour, hein, évidemment, et on a entendu aussi les sons qui vont avec. Elle est révélatrice, cette image.
Oui, c'est un symbole. Hein. Beaucoup de syndiqués estiment que la CFDT a été, d'une certaine manière, le casseur de grève. Beaucoup dans les rangs des syndicats contestataires, un reproche au premier syndicat de France de soutenir la réforme. Ça, déjà, c'est le point le plus important. Et puis surtout, d'avoir mis genou à terre avec une simple suspension de l'âge pivot. Dans les cortèges, on entend beaucoup de manifestants à l'effigie des syndicats les plus durs dénoncer l'attitude de la CFDT. Alors attention, hein, malgré tout, la CGT a tenu très vite à se désolidariser de cette intrusion. Quels que soient les désaccords possibles entre organisations syndicales, la CGT ne cautionne pas ce type d'action, a-t-elle fait savoir dans un communiqué. Chez Sud, hein, on dit aussi ne pas être derrière cette opération. Au gouvernement, avant même cette intrusion, certains ministres s'attendaient à de telles actions. Avec la baisse du mouvement, ils vont vouloir faire des actions symboliques. Il y a des convergences des extrêmes, glissait par exemple hier un représentant du gouvernement. Et la CFDT, comme les députés de La République En Marche, sont des cibles potentielles.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1, et la CGT et ses alliés semblent multiplier justement ces actions coup de poing. Le musée du Louvre, en plein cœur de Paris, a aussi été visé.
Oui, blocage des entrées de la pyramide, là même où le président Macron a fêté sa victoire, a rappelé l'intersyndical et face à face tendu tout à l'heure avec les touristes qui venaient profiter du musée qui a été contraint de fermer ses portes.
Sur les rails, en revanche, ça roule bien mieux. La SNCF annonce un trafic TGV quasi normal pour ce week-end. Taux de grévistes 4,6% aujourd'hui.
Et on en vient à l'hommage des policiers à leur collègue Franck Labois, cet agent de 45 ans mort en début de semaine après avoir été volontairement percuté par un fourgon lors d'une opération de surveillance.
Cérémonie solennelle dans la cour d'honneur de la préfecture du Rhône. Mathieu Bock, vous êtes sur place. Cérémonie en présence du ministre de l'Intérieur.
Oui, le cortège funéraire a été suivi par plusieurs dizaines de motos. La passion de Franck Labois jusqu'aux grilles de la préfecture. Ses collègues ont porté son cercueil recouvert du drapeau tricolore au centre de la cour d'honneur devant sa famille très éprouvée. Puis Christophe Castaner, après lui avoir remis la Légion d'honneur à titre posthume, a pris la parole pour rendre hommage aux policiers tués.
Avec vous, la France a perdu un grand policier. Un homme inestimable. Vous aimiez les États-Unis, vous enfourchiez votre Harley Davidson et preniez les routes, cheveux en arrière, lunettes noires sur le nez, vous empariez de chaque défi avec la même force, avec la même intensité.
Puis le ministre de l'Intérieur a élevé la voix pour soutenir ses troupes après les accusations de violences policières de ces dernières semaines.
Ravive. Moi aussi, je suis en colère. Quand je pense qu'on peut tuer un policier de sang-froid, quand je pense aux insultes, aux coups, aux projectiles qui sont lancés, quand je pense aux menaces que vous et vos familles subissez, quand je pense enfin à la complaisance pour les violences de certains et aux leçons de vertu qu'on assène à ceux qui accomplissent leur devoir républicain.
Christophe Castaner a ensuite accompagné à pied le cercueil de Franck Labois sans que les policiers ne lui tournent le dos comme cela avait été redouté.
Mathieu Bock à Lyon pour Europe 1. Hier, le parquet a annoncé l'arrestation d'un troisième suspect dans cette enquête ouverte pour homicide volontaire.
Europe 1, il est 18h05. La suite du journal, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Après 4 jours de témoignages parfois glaçants, le procès du père Prena a pris fin aujourd'hui même.
Le prêtre accusé d'avoir multiplié les agressions sexuelles sur les jeunes scouts qu'il encadrait pendant des décennies sera fixé le 16 mars sur son jugement. Jean-Luc Boujon, la procureure a requis une peine de prison d'au moins 8 ans.
Oui, 8 ans minimum, sachant que la peine maximale possible dans ce dossier est de 10 ans. La procureure a demandé cela pour les victimes. Un mot que Bernard Prena a tant de mal à prononcer. Des victimes qu'il ne regarde jamais en face, a-t-elle déclaré. Elle l'a qualifié de pervers, de pédophile en série, n'accordant que peu de crédit à ses aveux mécaniques et à ses demandes de pardon. Elle a même ironisé sur sa stratégie de défense. Étrangement, vous êtes un homme coupable, mais pas responsable. Pour vous, la seule solution est donc l'enfermement. 8 ans donc demandé, ce qui satisfait Pierre-Emmanuel Germain-Thil, l'une des 10 victimes.
8 ans, ça me paraît plus que cohérent et je félicite encore une nouvelle fois Madame la procureure pour ses réquisitions, pour tout ce qu'elle a pu dire, parce que honnêtement, elle a bien fait son boulot. Quoi. Pour moi, il y a une nécessité vraiment d'enfermer cette personne. Quoi.
Parce qu'il est toujours dangereux ou il doit être puni?
Il doit être puni et en même temps, voilà, je pense que ça reste quand même dangereux. Quoi.
Voilà, alors en face, l'avocat du père Prena, maître Frédéric Doyer, a trouvé ce réquisitoire démesuré.
Je trouve que c'est excessif. C'est-à-dire prétendre juger 30 ans après des faits alors que les valeurs de la société ont changé, que l'homme a changé lui-même. Je pense que c'est vraiment faire comme si on jugeait une affaire d'aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas.
Voilà, le père Prena qui s'est une dernière fois adressé aux victimes avec un petit texte préparé qu'il a lu, réitérant sa demande de pardon et assurant qu'il n'avait pas menti, qu'il avait été sincère dans les limites de sa mémoire. Le verdict sera rendu dans 2 mois, le 16 mars.
Jean-Luc Boujon en ligne du Palais de Justice de Lyon.
On en reparlera d'ailleurs de cette semaine, le procès dans les grandes voies dès 18h30. François Hollande qui prend la défense de Ségolène Royal. L'ancien président et ex-mari de l'ambassadrice des Pôles estime qu'on a, je cite, manqué d'élégance et surtout de reconnaissance. Je pense qu'elle aurait mérité de pouvoir poursuivre sa mission, a-t-il dit. C'était lors d'une visite à Rennes.
Est-ce un coup du guide Michelin, comme le dénoncent certains, ou simplement un signe des temps? En tout cas, c'est un fleuron de la gastronomie française qui a été descendu de son piédestal. Paul Bocuse, 2 ans après sa mort, s'est donc vu retirer sa 3e étoile, un choc évidemment à Collonges, sur les bords de la Saône où était installée son auberge. Mais comment le guide Michelin justifie-t-il sa décision? On voit cela avec Pierre Herbulot.
Il n'y a pas de traitement d'exception. Voilà les mots de Gwendal Poulenec, le patron du Michelin. Le guide assume donc. Les étoiles appartiennent au chef et pas au restaurant. Les établissements sont souvent déclassés après le départ ou la mort d'un chef. Et c'est valable aussi pour l'auberge du pont de Collonges de Paul Bocuse. Malgré sa renommée mondiale, malgré son histoire, le restaurant a perdu en qualité, il devait donc être déclassé, explique Gwendal Poulenec dans le journal de midi sur Europe 1.
Ce que nos inspecteurs ont noté l'année dernière, c'est qu'il y avait d'ailleurs une évolution de cette cuisine. Mm-hmm. C'est une maison qui est en pleine transition. Il y a une nouvelle équipe qui a choisi aussi d'apporter sa touche personnelle. Encore une fois, les étoiles du guide Michelin, elles ne s'héritent pas, elles se méritent. Et le guide Michelin est totalement imperméable aux effets de mode.
Le Michelin semble donc poursuivre sa mue, toujours plus intransigeant. L'an dernier déjà, 3 chefs perdaient leur 3e étoile, dont le médiatique Marc Vera. Il a même attaqué le guide pour ça, avant de perdre son procès le mois dernier.
Pierre Herbulot.
Alors, vieux monde contre nouveau monde, vieille cuisine contre nouvelle cuisine. Dans quelques minutes, Alexandre Camas sera mon invité. Il a fondé, il y a 20 ans, le guide gastronomique Le Fooding.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Les locataires mauvais payeurs seront fichés, c'est l'intention en tout cas des agences immobilières. On vous raconte dans la suite de votre journal de 18h.
Et puis les règles à la lettre, la rigidité des autorités du foot qui interroge.
Votre grand journal du soir, 2 heures d'infos tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1.
18h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
On vous en parlait dès ce matin sur Europe 1. La FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, veut ficher les locataires mauvais payeurs.
Et pour éviter de relouer un logement à ceux qui ont connu les plus gros incidents. L'idée fait beaucoup réagir. Maud Descamps, et le gouvernement ne semble pas l'avoir d'un très bon œil.
En effet, le ministre du Logement, Julien Denormandie, est très clair. Hein. « Je n'approuve pas cette proposition », dit-il. Le ministre estime que la confiance entre le locataire et le propriétaire ne se construit pas par la mise en place d'un fichier. Alors, comment va fonctionner ce fichier ? Eh bien, il sera abreuvé par les agences immobilières. Y figureront les noms des locataires qui ont de gros incidents de paiement, plus de 3 mois d'impayés. Ces mauvais payeurs resteraient au maximum 3 ans dans ce fichier et seraient désinscrits dès le remboursement de leur dette. Mais pour les associations de solidarité comme la Fondation Abbé Pierre, ce fichier va fragiliser une population déjà précaire. C'est ce que redoute Manuel Domergue.
Si on ne peut plus louer un logement normalement, ça veut dire qu'on va se retourner vers des solutions de fortune, se retourner vers des marchands de sommeil et puis après aller dans des bidonvilles, des centres d'hébergement, etc., etc. C'est pas comme ça que les personnes qui ont eu des difficultés vont s'en sortir.
La Fondation Abbé Pierre réclame le retrait de ce fichier. Et l'association de défense des consommateurs, UFC Que Choisir, a indiqué qu'elle surveillerait de très près le respect de la protection des données.
Mode décan du service économie d'Europe 1.
Les chiffres de Renault, hein, et Sébastien, comme pour PSA, les ventes reculent.
À l'international, mais le constructeur français limite la casse grâce au succès du low cost et de sa marque Dacia.
Il pleut enfin sur l'Australie. De fortes précipitations sont tombées hein, sur les incendies. Elles étaient très attendues, ce qui a donné un gros coup de pouce aux pompiers. Et cela devrait continuer ce week-end.
Un gros soulagement. Les sapeurs-pompiers français qui avaient été envoyés sur place pour aider les Australiens viennent tout juste de rentrer. Écoutez le colonel Bruno Uliac de la sécurité civile. C'est lui qui dirigeait cette mission.
On a été impressionnés très clairement par ces feux qui touchent maintenant pratiquement 20 millions d'hectares sur le pays. Ça représente un quart de la France. On était sur des sites de 200, 300 000 hectares, 500 000 hectares. Ce sont des choses qu'on n'a jamais connues en France. On a été complètement en immersion dans les équipes de gestion des feux. Donc on a été dans les centres de commandement, on a été dans toutes les équipes d'évaluation aérienne, donc on a survolé les feux, essayé d'établir avec eux des cartographies à risque et comment ils pouvaient répondre. On a été particulièrement impressionnés aussi du travail de nos collègues australiens, la solidarité de la population australienne face à cette problématique.
Le colonel Bruno Uliac, joint par Roman Hockey.
La règle, c'est la règle. Il faut le savoir. Les autorités de football critiquées ce soir, certaines s'estiment qu'elles font preuve de bien peu de souplesse.
Oui, deux cas, deux histoires. Il y a Nice qui écope d'une amende pour avoir mis à des enfants des bonnets de Père Noël. Bonsoir Cyril de la Morinerie.
Bonsoir.
Vous allez nous raconter. Puis il y a le cas de Fred Demby, ce joueur rouennais dont la sanction est confirmée en appel pour un hommage rendu à l'un de ses amis.
Oui, Fred Demby ne réalisera pas son rêve de gosse. Il ne jouera pas contre les professionnels d'Angers dimanche, son carton jaune. Et donc sa suspension ont été maintenues. Le joueur rouennais avait été averti pour avoir donc enlevé son maillot. Il avait laissé paraître un t-shirt saluant la mémoire du footballeur guingampais Nathanaël Julen. Malgré un grand élan de sympathie et surtout le soutien du président Noël Le Graët, la commission d'appel de la fédération est restée rigide, sans doute pour ne pas créer une jurisprudence, ce que regrette vivement Fred Demby, joint en début d'après-midi par Hortense Leblanc.
Dégoûté, plus dégoûté qu'en colère. Après, voilà, c'est dommage. Je leur en veux pour leur manque d'humanisme, mais quelque part, je peux pas les en vouloir parce que les règles, elles étaient comme ça avant que je fasse mon geste. J'ai de la tristesse. Ça m'aurait permis, moi, de mettre en valeur sur un match comme ça. Avec, en plus, on a un stade à guichet fermé.
Voilà, la règle, c'est la règle. Et Nice l'a également appris à ses dépens le 21 décembre dernier pour le dernier match avant la trêve. Les enfants qui accompagnaient les joueurs sur le terrain étaient coiffés d'un bonnet de Père Noël. Sanction immédiate, 2000 euros avec sursis. Les dirigeants niçois que j'ai joint ce matin estime que cette décision est ridicule. De toute façon, m'ont-ils dit, on ne paiera jamais. Ils m'ont expliqué le règlement. Les enfants doivent être habillés exactement comme les joueurs. Autrement dit, si les joueurs avaient porté un bonnet de Père Noël comme les enfants, eh bien Nice n'aurait pas été sanctionné.
Cyril de la Morinerie.
Ça alors.
Oui, incroyable. La Coupe de France ce soir justement, c'est l'OM en déplacement à Granville en Normandie, coup d'envoi 21h05. On ira voir un peu l'ambiance à 19h tout à l'heure.
Ouais.
Après les interrogations de l'entraîneur marseillais ces derniers jours. Et puis cette toute dernière minute, ça vient de tomber. Jean-Paul Gaultier annonce que son défilé de haute couture qui est prévu mercredi à Paris sera son dernier. Il se retire, Jean-Paul Gaultier, après 50 ans de carrière. Il avait déjà mis fin à sa ligne de prêt-à-porter il y a 6 ans.
Ouais, c'est une nouvelle page de l'histoire de la mode hein, qui se tourne. On va y revenir, on vous livrera le détail. À 19h, il fêtera ses 50 ans de carrière dans la mode. En effet, merci Sébastien.